Voici les titres du journal.
Unisanté veut faire un nouveau point sur l'immunité collective contre le coronavirus. 7000 Vaudois ont été invités à participer à une quatrième phase de son étude séro-Covid. Les résultats sont attendus pour novembre. La grande chasse, le coffre qui abriterait les reliques du Saint Maurice, a été restauré, présenté hier à la presse. Mais si les conservateurs ont pu répondre à certaines questions en analysant l'objet sacré, d'autres sont posées. La Cour des comptes du canton de Vaud s'est attelée à l'analyse des plans généraux d'évacuation des eaux. Objectif, assurer une qualité durable de l'or bleu. Fusion Blonay-Saint-Léger, la Chiesa, c'est la dernière ligne droite avant la votation de dimanche pour élire leurs autorités. Le point sur les candidats et enjeux dans ce journal. En hockey sur glace, le HC Bienne est sur un petit nuage. La formation zélandaise a donné une leçon à Genève hier soir. Et en course à pied, le tour du plus grand bassin alpin d'Europe est au programme de ce week-end pour la 3e édition de la Runmate Lac Léman.
Et pour la météo, le temps sera ensoleillé cet après-midi et demain, la météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour. En février, un quart des Vaudois a été immunisé contre le Covid. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est la question que se pose une nouvelle fois Unisanté. Une quatrième phase de son étude séro-Covid a été lancée en fin de semaine dernière. 7000 Vaudois ont reçu une lettre qui les invite à participer à la recherche. S'ils acceptent, ils recevront un kit d'autoprélèvement afin d'envoyer une goutte de leur sang à l'EPFL. Un procédé inédit en Suisse pour ce type d'étude et qui n'avait pas été utilisé pour les tests précédent. L'espoir des chercheurs, parvenir à réunir davantage de participants. Valérie Dacremant, infectiologue au sein d'Unisanté et investigatrice principale de l'étude.
Oui, parce que ce qui est essentiel pour qu'une telle étude marche, c'est que le plus de gens possible répondent à notre proposition, à notre appel, parce que ça donne une image vraiment plus fiable de la population. Les gens sont tirés au sort. Mais plus les gens participent, plus c'est tiré au hasard et mieux c'est pour avoir une bonne idée de la prévalence dans la population.
Parce que pour les trois séries précédentes, vous avez aussi approché 7000 Vaudois.
Alors oui, on a toujours invité parfois même plus, mais évidemment la proportion des gens qui viennent, c'est en général un quart des gens. Et là, on espère que plus de gens seront intéressés s'ils n'ont pas besoin de se déplacer dans un centre.
Vous espérez même passer du quart de convaincus à la moitié peut-être?
Alors c'est ce qu'on va découvrir avec cette nouvelle méthode. De toute façon, l'intérêt des gens varie aussi au cours de l'épidémie. Dépend aussi de s'ils sont vaccinés, pas vaccinés, s'ils pensent qu'ils ont eu l'infection. Donc il y a beaucoup de paramètres qui peuvent influencer la décision de participer. Mais évidemment, s'il y a trop de biais, ça ne va pas nous donner une bonne idée. Donc on espère vraiment que le plus de gens possible répondent à notre appel.
Pourquoi attendez-vous les résultats de cette quatrième phase d'étude?
Alors d'ici fin novembre, on aura les résultats préliminaires.
Jusqu'ici, il n'a pas eu de bon spectaculaire hein, dans les chiffres. L'immunité était de 7% en juin 2020, 17% en novembre 2020, 25% en février 2021. À quoi il faut s'attendre aujourd'hui?
Alors la situation est complètement différente parce qu'en février, on avait encore très peu de personnes qui avaient pu être vaccinées. La campagne de vaccination venait de commencer. Là, on sait par nos données que 78% des Vaudois sont de plus de 12 ans sont vaccinés. Donc forcément qu'on doit obtenir un chiffre qui est au moins celui-là puisqu'on a en plus encore les gens qui ont des anticorps dus à une infection naturelle.
Des propos recueillis par Isabelle Bertolini. Notons que les participants peuvent aussi se rendre chez Unisanté pour réaliser le test. Les parents d'enfants participants peuvent, eux, se tourner vers leur pédiatre habituel. Une grosse fuite d'eau s'est produite cette nuit du côté du secteur des Génères à Rena. Conséquence, le réservoir du Pissot à Villeneuve s'est entièrement vidé. Ce même réservoir alimente les 5 communes du Haut-Lac. Contacté ce matin, le syndic de Roche, Christophe Lant, assure que la situation s'est stabilisée après la fermeture des vannes d'alimentation du réservoir. Pour l'heure, les services techniques de Roche et de Villeneuve sont à la recherche de l'origine de cette fuite.
La fête de la Saint-Maurice aura une saveur particulière aujourd'hui.
Les reliques du martyr retrouve la procession qui célèbre le sacrifice de la Légion thébaine. La grande chasse, le coffre qui abriterait les ossements du soldat Maurice, a été restauré pendant 4 ans. Plusieurs années étaient nécessaires puisque le travail d'un tel ouvrage est titanesque. Les explications de Romain Jeanneret, conservateur-restaurateur pour le trésor de l'abbaye.
Cette chasse qui fait environ 60 cm de haut, 85 cm de long, donc c'est un coffre, hein, il est recouvert de toute une multitude de pièces. Il y a environ 300 éléments qui l'ornent. Donc le démontage qui est la première étape de la restauration est déjà un travail conséquent. Il faut que chaque pièce retrouve son emplacement, que chaque clou, il y en a 2000, retrouve son emplacement. Donc, il y a un grand travail préparatoire de documentation pour que cette pièce, voilà, quand on la remonte, qu'on trouve chaque élément. Ça c'est évident. Et puis ensuite, cette pièce qui est essentiellement en argent et en argent doré, elle est recouverte de ternissement, donc l'objet apparaissait éteint, complètement noirci. Et pour redonner l'éclat de cette pièce, on a utilisé une technique d'électrochimie en appliquant le pinceau électrolytique qu'on appelle le pleco, qui permet en fait localement de réduire ce ternissement et de le retransformer en argent métallique. Et cette technique est très intéressante parce qu'elle ne modifie pas la surface et elle est stable dans le temps. D'autres techniques utilisées aujourd'hui sont pas stables ou alors impriment des traces, et ça on veut l'éviter évidemment.
Une technique qui sera réutilisée pour la restauration d'autres œuvres du trésor. Et au-delà de cet embellissement, l'analyse de la grande châsse a permis de déterminer que sa construction date du début du XIIIe siècle et non du XVIIe siècle, comme imaginé à l'origine. L'histoire de l'abbaye n'est pas encore entièrement connue. On retrouve Romain Jeanneret.
On a l'impression qu'on a une histoire, surtout par la bibliothèque et les archives très fournies de l'abbaye, qu'on connaît tout de l'histoire de l'abbaye. Mais en réalité, il suffit qu'on passe dans le trésor et vous rendrez compte que toutes les pièces qui sont là, il y en a peu dont on sait l'origine. On ne sait pas qui les a données. On a des objets, on a une aiguillère dite de Charlemagne, mais Charlemagne ne l'a vraisemblablement pas offert à l'abbaye. On a une aiguillère dite de Saint-Martin, et là c'est la même chose. A priori, ce n'est pas Saint-Martin qui donne cet objet à l'abbaye. Donc on a une historiographie locale, on raconte des choses qui passent de génération en génération, mais énormément de ces choses sont romantiques, romancées, et il convient autant que possible d'essayer de démêler le vrai du faux, en tout cas pour ce qui constitue la fabrication de ces pièces, et on ne s'en sort pas toujours. L'étude de la grande châsse de Saint-Maurice en est l'exemple. On y travaille pendant 4 ans, on a tout un parterre d'experts qui collaborent, mais à la fin, on a comme souvent plus de questions que de réponses, et ça, il faut aussi l'accepter. On a vraiment plein d'interrogations sur ces pièces, on ne sait pas tout.
L'an prochain, une publication rassemblera toutes les découvertes des spécialistes de l'art de la conservation sur cette grande châsse. Les conservateurs s'attelleront également à la restauration d'une autre pièce du trésor de Saint-Maurice, le châsse de l'abbé Nanthelme.
Actualiser les plans généraux d'évacuation des eaux dans le canton de Vaud pour assurer une qualité durable de l'or bleu.
C'est une des conclusions du dernier audit de la Cour des comptes qui s'est attelée à l'analyse de ces PGE, les plans généraux d'évacuation des eaux. Une responsabilité communale qui vise à gérer et planifier la sortie des eaux usées est claire. Mais surprise, il se trouve que le canton de Vaud ne possède aucune vision générale des plans communaux. Guy-Philippe Bollet, président de la Cour des comptes.
Donc le canton n'a effectivement aucune vision globale. Par contre, il dispose de tous les plans qui ont été établis dans chacune des communes séparément. Mais si on essaye de coller un plan à côté d'un autre, on constate que tous ces plans ont été faits de manière très différente, à des périodes différentes, avec des bureaux d'ingénieurs différents. Et de ce fait-là, ces éléments ne sont pas agrégeables, ils sont souvent pas comparables. De ce fait-là, ils sont difficiles à utiliser au niveau cantonal.
Des plans en format multiple qui ne facilitent pas la lecture globale à l'échelon cantonal. La Cour des comptes recommande d'ailleurs au canton d'harmoniser les pratiques dans l'objectif des plans généraux de deuxième génération. Guy-Philippe Bollet.
Tout va découler en fait de nouvelles législations fédérales qui est entrée en vigueur en 2014, la loi fédérale sur les eaux, qui oblige désormais de tenir compte des micropolluants dans le traitement des eaux. Et de ce fait-là, vont nécessiter quand même une nouvelle vision régionalisée du traitement des eaux. Ce plan micropolluant va vers une obligation de mettre en place une quinzaine de grandes steps qui pourront traiter ces micropolluants. Et de ce fait-là, ça va quand même créer une certaine uniformité. Et pour y arriver, il faut commencer par la planification. Et cette planification, c'est justement ces plans généraux de deuxième génération et qui permettront aussi, c'est ce que nous attendons du canton, c'est qu'il émette des directives plus précises en matière de réalisation de ces PG pour avoir des documents qui soient plus facilement comparables, agrégeables, consultables. C'est ainsi qu'on pourra aller de l'avant et puis faire vraiment des économies dans ces réalisations de planification à très long terme.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Au total, 70 recommandations sont adressées aux communes, aux associations et aux cantons, dont 67 sont acceptées par les entités auditées. Le renforcement de la protection de l'enfant franchit une étape importante dans le canton de Vaud. Afin de mettre en œuvre les orientations stratégiques retenues par l'ordre judiciaire vaudois, le Conseil d'État lui a alloué des moyens humains et financiers supplémentaires. Les ressources attribuées permettront d'instaurer une chambre de protection de l'enfant dans chaque justice de paix, de système systématiser la participation de l'enfant à la procédure et de renforcer la formation continue des magistrats dans ce domaine sensible. Par ailleurs, une démarche visant à favoriser le recrutement d'assesseurs spécialisés sera également mise en œuvre dans l'objectif de garantir la composition interdisciplinaire de l'autorité de la protection de l'enfant.
Dernière ligne droite avant la fusion, Saint-Léger, La Chiesa et Blonay.
Les citoyens des deux communes qui s'uniront le 1er janvier se rendront aux urnes dimanche. Ils doivent élire leur future municipalité et conseil communal. On fait le point sur les candidats et enjeux de cette élection avec Isabelle Bertolini.
C'est vrai que cette élection, en tout cas ce premier tour, est historique. Il est temps de choisir qui seront les sages qui donneront le la de la politique de la nouvelle-née Blonay-Saint-Léger. Et les places sont chères car l'étau s'est resserré avec cette fusion. Alors que les deux municipalités comptaient 5 sièges chacune, la nouvelle commune n'en comptera que 7. Pour ce qui est des couleurs, pas de mystère du côté de Saint-Léger, La Chiesa et Blonay. Nous sommes en présence de deux bastions PLR. La municipalité des deux communes a exactement la même composition, 4 libéraux radicaux et 1 indépendant. Reste à savoir si le PLR sera toujours aussi fort au sein de l'exécutif de la nouvelle commune ou si les électeurs profiteront de la fusion pour redistribuer un peu les cartes.
Et qu'en est-il du côté des candidats à l'élection ?
Eh bien, ils sont 19 à tenter leur chance pour ce premier tour, répartis sur 7 listes différentes. C'est sans surprise le PLR qui propose le plus de candidats. Ils sont 6, dont 5 sortants. Les deux syndics Alain Beauvais et Dominique Martin, Bernard Dejecks, Thierry Georges et Gérald Gigli. Ils partent aux côtés d'une nouvelle, Alexia Veil. Logique encore, la deuxième liste la plus fournie est celle du groupement des indépendants, présent dans les deux municipalités. Les deux sortants, Dominique Epp et Christophe Schneider veulent rempiler en compagnie des nouvelles Michel Perlet et Anna-Lena Elmuller. Toutes les autres formations ont opté pour une liste à deux noms, sauf une, les Verts libéraux, qui ne lance que Jean-Luc Chablot, sortant, qui portait jusqu'ici la bannière libérale radicale. Les Verts, eux, lancent Sarah Lizet et Jean-Marc Nicolet. Le Parti socialiste et allié sera représenté par Laura Ferrilli et Romazina Maurer. L'entente soutient Charles Maurard et Éric Boralet, lui aussi jusqu'ici PLR. Et enfin, l'UDC se range derrière Romain Bellotti et Fabrice Borla.
Et du côté du conseil communal.
Avant de parler chiffres, précisons que l'élection du premier conseil communal de Blonay-Saint-Léger sera un peu spéciale. Contrairement à l'élection de la municipalité, les autorités ont préféré conserver 2 arrondissements, les habitants ne connaissant pas forcément les candidats de la commune voisine. Saint-Léger votera donc pour élire 38 conseillers et Blonay pour 42, ce qui composera un conseil à 80 élus contre 130 si l'on additionne les deux conseils communaux actuels. Pour ce qui est des listes, elles sont les mêmes dans les deux arrondissements et les 7 mêmes que pour la municipalité. Là encore, PLR et Groupement des Indépendants présentent le plus de candidats. Mais nous n'allons pas entrer davantage dans les détails puisqu'il faudrait tout de même donner 14 chiffres en tout.
Et quels sont les enjeux pour cette législature à Blonay-Saint-Léger ?
L'enjeu principal, ce sera avant tout de réussir la fusion, c'est-à-dire de trouver un équilibre pour cette nouvelle commune, qu'il soit financier ou non. La municipalité devra faire fonctionner une toute nouvelle ville forte de 12 000 habitants, tout en conservant un esprit de village. Et si l'on ne devait citer qu'un grand dossier à venir, ce serait celui de la Verderaie, la construction d'un parc d'activités industrielles non loin de l'autoroute. Un projet destiné à faire de la place aux entreprises sur la Riviera et qui pourrait créer jusqu'à 500 places de travail.
C'était un dossier préparé par Isabelle Bertolini. Le premier tour de cette élection se tiendra donc le 26 septembre, soit ce dimanche. Plus de 260 000 personnes ont signé une pétition demandant le maintien de la gratuité des tests Covid. La pétitionnaire Maya Balmer a remis les signatures à la chancellerie fédérale ce matin. Pour 40% de la population suisse, l'extension de l'obligation de certificat signifie que la vie publique et la possibilité de vivre en communauté deviennent coûteuses, selon le texte de la pétition. Comme de nombreux citoyens n'ont pas les moyens de se payer ces tests de 80 à 120 francs, ils sont pratiquement exclus de la vie publique.
La croisade du Conseil national ce matin est celle en faveur du pain fabriqué en Suisse et avec des ingrédients du pays.
Il a adopté par 107 voix contre 74 une motion demandant d'afficher dans les commerces qui vendent du pain un label précisant que le pain proposait bien un pain suisse. Une opération pour tenter de contrer l'offensive importante des pains étrangers surgelés qui anéantissent bon an mal an une cinquantaine de boulangeries artisanales en Suisse. Les explications à la tribune du conseiller national socialiste vaudois Samuel Bédahan.
Faire du pain, c'est un art. Est-ce que ça suffit de voir un pain pour savoir ce que l'on achète ? En Suisse, on a un problème avec ça. On a le problème que lorsqu'on achète du pain, aujourd'hui, on peut voir à quoi il ressemble. Éventuellement, on peut voir qu'il a été cuit ici, mais on n'en sait pas plus. On ne peut pas déterminer, par exemple, facilement, s'il a été importé de l'étranger à travers un processus de production purement industriel ou s'il s'agit d'une production locale, bien plus chère à faire, selon des traditions que nous connaissons bien. Le label qui est proposé permet aussi de garantir que si un produit a été fait en Suisse, avec des méthodes locales, cela fait partie du produit. Les personnes qui sont renseignées pourront faire leur achat en toute connaissance de cause et préférer un pain de production locale si c'est important pour eux.
Le Conseil national n'a pas suivi la recommandation du Conseil fédéral demandant de rejeter la motion parce que l'actuelle loi permet déjà de savoir ce qu'on achète et parce que le mois passé, les professionnels du pain suisse ont déjà lancé le label souhaité. Le ministre des Denrées alimentaires, Alain Berset.
D'abord, nous estimons que le droit suisse offre déjà beaucoup de possibilités pour mettre en valeur l'origine suisse des produits de boulangerie. Cette législation actuellement en vigueur est le résultat de longues discussions au Parlement qui avaient permis d'aboutir à un compromis en 2017, et ce dans le cadre du traitement des lois sur les denrées alimentaires et sur la protection des marques Swissness. L'association Pain Suisse a lancé le 23 août 2021, donc il n'y a même pas un mois ou juste un mois, une nouvelle marque du même nom, Pain Suisse, qui permet déjà aujourd'hui une meilleure transparence pour les consommatrices consommateurs et fixe les conditions de son utilisation.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Le National recommande le rejet de l'initiative populaire pour sauver des vies en favorisant le don d'organes. Il s'est tacitement rallié aujourd'hui aux décisions de la Chambre des cantons. Le contre-projet indirect du Conseil fédéral est jugé par le Parlement comme une bonne alternative. L'an dernier, plus de 1450 personnes étaient sur une liste d'attente et 72 sont décédées faute d'avoir pu recevoir l'organe dont elles avaient besoin. Le consentement présumé élargi facilitera les dons tout en respectant au plus près la volonté du défunt selon les chambres. La vente de cigarettes à des mineurs sera interdite dans toute la Suisse et la publicité pour le tabac sera davantage réglementée. Le Parlement a éliminé aujourd'hui les dernières divergences de la nouvelle loi sur les produits du tabac. La loi réglemente aussi les produits du tabac à chauffer et la snus. Elle autorise par ailleurs les cigarettes électroniques contenant de la nicotine, mais le vapotage avec ou sans nicotine ainsi que les produits du tabac à chauffer seront interdits dans les lieux où il est actuellement interdit de fumer. Les cigarettes électroniques seront interdites de vente aux mineurs, elles aussi. La loi sera le contre-projet indirect à l'initiative populaire contre la publicité pour le tabac. Si ses initiations la maintiennent, si elle n'est pas combattue, elle entrera en vigueur à la mi-2023.
Contre l'avis de la grande majorité des élus romands, le Conseil des États a voté la suppression de la valeur locative.
Ce n'est qu'un premier pas. Le Conseil national devra se prononcer dans quelques mois. Rien n'indique pour le moment que la réforme ira à son terme. La majorité alémanique du Conseil des États a pourtant décidé de conserver la valeur locative pour les résidents secondaires. Les explications à Berne de Serge Jubin.
Deux arguments forts développés par la majorité qui veut abolir la valeur locative et en parallèle supprimer les déductions fiscales pour les travaux d'entretien et la déduction des intérêts hypothécaires. Les personnes qui arrivent à la retraite et ont payé leur bien immobilier sont frappées d'un impôt sans fondement et les Suisses sont trop endettés. Le système de la déduction fiscale des intérêts hypothécaires est un système qui subventionne l'endettement. La majorité bourgeoise alémanique du Conseil des États s'est heurtée à la gauche qui estime que la réforme proposée est déséquilibrée et qu'elle n'a aucune chance si elle doit aller devant le peuple, le socialiste Christian Levrat.
Je partage l'analyse qui veut qu'il s'agisse d'un bricolage législatif à force de pression des différents lobbies qui sont impliqués ici. Je considère que le projet n'a absolument aucune chance politique et qu'il serait sain de l'interrompre. 21 cantons se sont opposés à cette modification. Pour au moins 42 d'entre vous, vous êtes confrontés à une situation dans laquelle votre canton que vous représentez ici vous demande de ne pas entrer en matière sur ce projet.
Les conseillers aux États des cantons romands ont plutôt bien écouté leur gouvernement. 9 élus romands ont rejeté la réforme, 2 se sont abstenus. Ce sont les libéraux radicaux Johanna Gapani et Olivier Français. Et un seul sénateur roman a soutenu le principe de la suppression de la valeur locative. Le conseiller aux États libéral radical neuchâtelois Philippe Bauer.
L'abolition de la valeur locative doit encore faire l'objet de débats au Conseil national. À l'étranger, l'Afghanistan essaye d'engager le dialogue international. Le ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement taliban, Amir Khan Moutaki, a demandé dans une lettre à s'exprimer devant l'Assemblée générale annuelle de l'ONU au nom de l'Afghanistan. Pour l'heure, l'organisation n'a pas encore pris de décision. La plupart des gouvernements de la planète n'ont pas encore reconnu le gouvernement nommé par les talibans. Ils exigent auparavant qu'ils remplissent plusieurs conditions, dont le respect des droits des femmes et son engagement à laisser partir d'Afghanistan ceux qui le souhaitent. Amnesty International lance une campagne mondiale pour lutter contre les inégalités face à la vaccination contre le Covid. La pétition 100 jours pour attraper le retard demande que 40% de la population des pays pauvres soit vaccinée d'ici fin 2021. Cette démarche est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Amnesty International s'en prend notamment aux compagnies pharmaceutiques et leur réclame 2 milliards de doses à distribuer aux pays à faible revenu. La terre a tremblé ce matin en Australie. Un séisme de magnitude 5,8 a frappé le sud-est du pays, dans la région de Melbourne, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Mis à part des scènes d'habitants paniqués, le tremblement de terre n'aurait pas fait de victimes ni de dégâts importants, selon les premières informations des autorités. Sur glace, le HC Bienne ne s'arrête plus de gagner. La formation biennoise a signé sa 7e victoire en autant de matchs hier soir à la Tissot Arena en étriant Genève Servette 6-0 en National League. C'est la première fois que les Zélandais réussissent pareille série de victoires depuis leur retour dans l'élite en 2008. Face à des Servettiens décimés par les blessures, le HCB a su rester sérieux et appliqué. Les explications de l'attaquant biennois Liliane Garessou.
C'est sûr qu'après autant de victoires d'affilée, il ne faut pas s'enflammer. Il faut continuer à travailler. Je pense que c'est toute l'équipe qui a continué sur ce chemin-là. Personne ne s'est enflammé. On s'est dit c'est un match après l'autre. Puis on est parti avec la mentalité, on voulait gagner ce match. Et je pense qu'on a montré que... On a tous tiré la même corde et on a montré qu'on voulait aller le gagner celui-là.
Il y avait Étienne Foidevaux qui disait tout à l'heure, on a de la chance, on peut compter sur ces jeunes qui viennent nous prêter main forte. Vous, comment vous vous sentez avec, par exemple, Théo aussi, vous allez prêter main forte de temps en temps, pas tous les matchs. Comment ça se passe cette intégration avec la première?
C'est sympa de la part d'Étienne de dire ça, mais nous on peut aussi lui rendre l'appareil parce que c'est un gars super sympa qui nous donne des conseils, il nous encourage, il nous dit un peu quoi faire. Ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, nous on est tout jeunes, on vient d'arriver, donc c'est sûr ça aide d'avoir une personne comme ça à nos côtés. Et puis ouais, si on apporte quelque chose, c'est aussi bien, on est aussi là pour ça. On est jeune, mais on peut aussi apporter de l'énergie et des choses comme ça, donc c'est top.
Des propos recueillis par nos confrères de BNJ. Au classement, le HC Bienne reste leader de National League, mais possède désormais 3 points d'avance sur son dauphin Zug. La prochaine séance pour la troupe d'Antti Tormanen, ce sera vendredi avec un derby dans la capitale face à Berne. En tennis, Gilles Teichmann a signé un nouveau succès probant hier soir. La Suisse s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 500 d'Ostrava en dominant Angélique Herbert 6-2-6-3. Numéro 2 helvétique, Gilles Teichmann a mis 72 minutes seulement pour remporter ce duel de gauchère. La finaliste du récent tournoi WTA 1000 de Cincinnati affiche ainsi désormais un bilan de 6 victoires pour une défaite cette année face aux membres du top 20. Au prochain tour, elle affrontera Alison Risquet ou Fiona Ferro demain au deuxième tour à Ostrava.
En course à pied, 210 km sont au programme de la Run Met Lac Léman.
La 3e édition de la course vaudoise qui débutera et se terminera à Puy-Plage se tiendra ce week-end entre samedi et dimanche. Au programme, plus d'une centaine d'équipes composées de 2 à 9 personnes vont effectuer le tour du plus grand bassin alpin d'Europe. Les adeptes de sensations fortes qui s'inscrivent à cette course sont toujours plus nombreux. Une observation que commente la coordinatrice de l'événement, Sophie Ducrot.
Alors oui, il y a un nombre de participants croissant. D'ailleurs, si jamais on refait souvent des inscriptions sur place pour les plus motivés qui viennent sur place en disant « Ah, mais on a oublié de s'inscrire », etc. Donc voilà. Du coup, oui, il y a une évolution. Là, avec le Covid, effectivement, c'était compliqué parce qu'on avait, l'année dernière, on avait des équipes qui s'étaient inscrites, qui venaient d'un peu plus loin que la Suisse ou la France voisine. Du coup, on les a reportées pour cette année où du coup, ils peuvent venir. Donc ça a été une bonne nouvelle. On se rend compte en fait que les gens viennent d'un peu plus loin que l'année dernière où c'était que des Suisses et des Français frontaliers qui pouvaient venir.
Niveau crise sanitaire, on a rapidement évoqué le sujet, hein, et on imagine qu'il y aura cette année encore des mesures sanitaires, vous en avez parlé, mais quelles sont-elles pour les équipes engagées? Vous avez parlé du pass sanitaire.
Voilà, on a le pass sanitaire obligatoire, donc effectivement c'est les autorités qui nous l'ont demandé, donc ça sera très simple, au départ depuis on va effectuer le Covid check pour voir que toute l'équipe là, on leur remettra un bracelet et comme ça après ils pourront prendre le départ et nos équipes à chaque point relais checkeront le bracelet pour être sûr qu'ils ont été checker. Voilà, après c'est toujours les mêmes, il y aura le masque obligatoire pour nous, nos équipes sur les points relais, les ravitaillements sont mis en place, c'est différent, on les sert, ils ne servent pas tous comme d'habitude, au retrait des dossards, que le capitaine et une seule personne qui peuvent rentrer pour éviter les regroupements. Voilà, maintenant on est un peu tous habitués à cette situation, donc on n'a pas innové, mais c'est vrai que ouais, malheureusement on est obligé de demander le test sanitaire, enfin le pass sanitaire pardon, pour pouvoir faire la manifestation.
Cette troisième édition de la Run Mate Lac Léman se tient donc ce week-end tout autour du plus grand bassin alpin d'Europe. Les équipes participantes vont traverser 73 communes, 3 cantons et un département français. Un sujet signé Ludovic Turin.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec François Nicollier, agencement de cuisine, dressing et menuiserie sur mesure depuis plus de 40 ans à Aigle et au Diableret. fnicollier.ch.
Le temps sera généralement ensoleillé cet après-midi avec quelques cumulus tout de même sur les crêtes. Il va faire 19 degrés en pleine au maximum, 15 à 1000 mètres et jusqu'à 11 degrés à 2000 mètres. Pour demain, même type de temps avec pour la matinée des bandes brouillard qui nous sont annoncées probables sur la Riviera. En matinée, il va faire demain de 8 à 20 degrés en pleine, 8 à 20 également à 1000 mètres et de 7 à 14 à 2000 mètres. La météo à 6 jours, elle est disponible sur notre site Radio Chablais.ch.